Nous accueillons maintenant André au 3921. Bonsoir André.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Très bien, je remercie. Enfin, ça pourrait aller mieux, mais enfin, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure.
D'accord. Vous m'appelez d'où, André ?
Je vous appelle de Lorient.
De Lorient, d'accord.
Dans le Morbihan.
D'accord, très bien.
Alors, pour commencer, bon, j'ai fait mon service militaire en étant sursitaire. Comme tout le monde, mes classes au CFM Hourtin. Et là, rapidement, on s'est aperçu que j'avais des prédispositions pour l'animation et les loisirs, parce que avant d'aller au service militaire, j'avais fait une formation par alternance d'animateur. Donc, le capitaine de compagnie m'a dirigé vers ce qu'on appelle le centre interarmé de formation d'animateur, qui était à l'époque à Angoulême. Et à l'issue de ce stage, j'ai été affecté à l'unité marine de Dakar, où je m'occupais essentiellement des loisirs, des matelots, qui étaient effectivement sans leur famille, complètement excentrés. Et mon jeune frère, lui, moi j'étais sursitaire, mon jeune frère avait 18 ans, lui il avait devancé l'appel. Et en mois de mai 68, il était embarqué sur le porte-avions de Clémenceau, et il se retrouvait dans un camp de repos avec un copain. Et voilà qu'avec son copain, eh ben, ils veulent faire un peu de plongée sous-marine. À un moment donné, son copain se retourne et ne voit plus mon frère. Il rencontre, il dit « Voilà, je comprends pas, mon collègue était avec nous, on a fait la plongée ensemble. » Ben, ouais,
plongée avec bouteille ou du snorkeling en fait avec,
Non, avec bouteille et tuba.
Bouteille,
quoi.
D'accord, ok.
Avec il ne le voit plus, donc il rencontre, le temps que tout le monde réagisse, au début on pensait qu'il avait fait demi-tour sans prévenir son collègue, et à un moment donné, il y a un personnel, un tahitien, qui dit « Mais qu'est-ce que vous cherchez là ? » « Ben oui, il y a un matelot qui a disparu. »« Oh là là, mais ici on a des tourbillons. » Alors donc, ils ont mis en route, si vous voulez, les hélicoptères recherchés.
Ouais.
Et le tahitien leur dit, qui était local, il dit ben, « Vous en faites pas, hein. Dans 3 jours, vous allez retrouver la pointe là-bas. » Effectivement, ils l'ont retrouvé 3 jours après, mangé par les requins.
Ouais,
et
ouais.
Donc moi j'étais à l'époque à Dakar, il y a un jeune aspirant de marine qui est arrivé chez mes parents dans le Nord Finistère, près du Conquet. Un dimanche matin, le jour de la fête des mères, en tenue militaire, et il a fait une erreur, il aurait dû aller voir le maire du Padelin. Non, il est venu directement. Ma mère, le voyant, mon père était absent, le voyant en tenue militaire, dit « Madame, vous avez quelqu'un dans votre famille qui est militaire ?»« Ben oui, j'ai un fils qui est à Dakar, et puis l'autre qui est sur le porte-avions qui m'en sauve. » Alors elle a suppliqué, elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et brutalement, il lui a annoncé comme ça que son plus jeune fils, 18 ans, s'était noyé à Tahiti. Il paraît qu'elle a poussé un cri dans le bourg. Ça a été atroce, quoi. Complètement atroce. Elle a fait une dépression très, très profonde.
Ben oui, la pauvre.
À l'issue de ça. Et bien moi, après le service militaire, janvier 69, j'étais toujours versé dans l'animation, les loisirs. J'ai trouvé un poste comme directeur du foyer de jeunes travailleurs de Lisieux, en Normandie.
Oui, je connais, c'est pas loin d'Evreux.
Non, c'est pas loin d'Evreux. Ouais. Oui.
J'ai même été à Lisieux, au collège. J'étais dans un collège catholique, là, je ne sais plus comment ça s'appelait.
Oui,
Frémont, exactement.
Ah oui, moi aussi.
Ah bon, vous voyez.
J'ai redoublé ma terminale à Frémont. Mmh.
Je pense qu'il garde un piètre souvenir de moi, je pense. Mais bon.
J'ai redoublé ma terminale.
Ce fut court.
Et le foyer de jeunes travailleurs se trouve à l'ombre de la basilique.
Avec une très belle basilique.
J'ai pesté contre la basilique de Lisieux parce que impossible de faire la grâce matinée le matin avec
des
cloches.
Et oui, c'est d'ailleurs la. Bon, c'est la pure merveille de Lisieux, cette basilique.
Ah oui, tout à fait, oui. Qui n'est pas terminée, puisque le clocher n'a jamais été achevé.
Oui, et il y a eu, des apparitions là-bas, non, en fait. Rappelez-moi l'histoire.
Oui, c'est la ville de Sainte-Thérèse de Lisieux.
Oui, c'est ça, Sainte-Thérèse de Lisieux.
Je crois que Edith Piaf a été guérie de la cécité avec Sainte-Thérèse de Lisieux, d'ailleurs.
Oui, exactement, exactement.
Donc, pendant 2 ans, j'étais donc directeur du foyer de jeunes travailleurs. Il y avait une cinquantaine de chambres. Bon, c'était pas mal, mais enfin, c'était associatif et j'étais payé à coup de lance-pierre, quoi. Et en même temps, j'étais secrétaire de l'Amicale des Bretons de Lisieux et secrétaire de l'Amicale des Anciens Marins. Et un jour, je vois dans le journal Col Bleu que la marine crée une nouvelle spécialité à part entière, qu'on appelle assistant de foyer de la marine, et y recruter du personnel. Ayant fait mon service militaire dans les foyers de la marine, mais comme matelot animateur de loisirs, je fais acte de candidature, et j'ai donc été recruté sur titre, directement. Je fais mon stage de 6 mois à Toulon. C'est d'ailleurs là que j'ai été passionné par la photographie. Oui. Parce que durant le stage, on a eu une semaine de stage avec la société Kodak. Et pour une initiation à la photo. Et à l'issue du stage, les animateurs de Kodak nous ont remis une pochette avec les photos d'Apollo, que j'ai gardées précieusement depuis plus de 50 ans.
D'accord.
Ouais. Et d'ailleurs, ça fait l'objet dans la presse locale de Lorient. J'en ai fait part et j'ai eu la une du journal local à ce niveau-là. Et donc, à l'issue de ce stage, j'ai été d'abord affecté à Lorient. Et ensuite, sur un site complètement isolé opérationnellement à Mururoa pendant 16 mois, où je me suis occupé à nouveau des loisirs. On avait 2 salles de cinéma équipées en 35 mm. Enfin, j'ai 3000 personnes isolées en position de ce qu'on appelle célibataire géographique. Il faut les occuper. Et je rentre en métropole pour 1 an. Je repars pour 2 ans à Tahiti.
Oui.
Et un jour, nous étions en réunion de directeurs de foyer, et je vois encore le spectacle, la secrétaire tahitienne qui appelle le directeur du groupe des foyers, qui dit « Monsieur, c'est urgent, venez au téléphone. » Bon, il s'absente, il demande à son sous-directeur de le remplacer et pour poursuivre la réunion. Et au bout d'une demi-heure, le directeur du groupe des foyers revient à la réunion, et son regard croise le mien. Mais il n'a rien dit. Et à l'issue de la réunion, il m'appelle dans son bureau. Et puis, avec déménagement, il me dit « Alors, ça va? Vous avez combien de frères ?» J'ai dit « Nous étions 4 garçons. Malheureusement, j'ai perdu mon jeune frère à 18 ans à Tahiti, de noyade. Et c'est là qu'il m'annonce « Votre frère aîné est décédé.
Oh. »
Oh. C'est pas possible. Alors, mon frère aîné était moniteur d'auto-école dans le Nord Finistère.
Oui.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un métier très stressant. Et quand un de ses clients échouait à son examen de permis de conduire, il en était plus malade que le client lui-même. Et donc, il a voulu se reconvertir. Et pour se reconvertir, eh bien, il a commencé à vendre des caravanes. Et le soir, après sa journée de travail, vous qui connaissez le Calvados, il prenait sa voiture, il allait à Falaise,
oui,
récupérer une caravane, il la ramenait dans le Nord Finistère, et s'endormir, et reprenait sa journée le lendemain. Et il a fait un burn-out, et il a mis fin à ses jours. Alors j'étais encore donc à l'étranger quand on m'a annoncé ça. Vous vous rendez compte, c'est... Tant que mes parents ont perdu, comme ça, 2 enfants.
C'est terrible. Terrible.
Terrible. Et le troisième, mon frère aîné était marié, mais il était père de 3 filles. Hein. Le troisième venait de divorcer. C'était en 89, je crois, oui. Il venait de divorcer. Son ex-femme était partie en vacances, je crois, au Portugal, avec leurs 3 enfants. Et mon frère avait un bon collègue, et puis il se voyait régulièrement, puis ne le voyant pas venir depuis quelques jours, il dit « Tiens, je vais voir qu'est-ce qu'il devient. » Et mon frère avait un chien, il venait de divorcer. Bon, et il frappe personne. Il dit « C'est bizarre, le chien hurlait à la mort. » Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les pompiers, il appelle la police. Il était décédé d'une hémorragie interne.
Oh.
Donc vous voyez, sur 4 garçons, mes parents de leur vivant, en ont perdu 3. C'est vraiment quelque chose d'affreux. Quoi.
D'affreux. Et pour vous, pour vous ça a dû être terrible, bien évidemment.
Ah oui, c'est.
Et puis vous retrouvez le seul. Pas de fille du tout, vous étiez 4 garçons.
4 garçons, il n'y avait pas de fille.
Et puis vous retrouvez le dernier des frères, là, ça a dû. Ça a obligatoirement dû vous mettre la pression.
Oui. Alors je pense que j'ai compensé dans mon métier.
Oui.
Comme j'étais très sociable, j'ai très très épris de communication, de relations humaines.
Oui.
Donc j'ai eu des expériences au cours d'une carrière dans la marine. Alors les gens me disent, mais c'est pas un métier militaire, ça. Ben, je faisais la même chose dans le civil. Hein. J'étais directeur de police de jeunes travailleurs.
Finalement, après, c'était que ce soit dans la marine ou ailleurs, lorsqu'on distrait
plus,
les gens.
C'est de la marine, ouais. C'est la seule armée qui disposait de ce personnel spécialiste pour animer et gérer les foyers. C'est-à-dire que les foyers de la marine fonctionnaient par autofinancement. C'est-à-dire les bénéfices générés par des activités commerciales, bars, coopératives et tout, ou autres, étaient obligatoirement reversés sous forme de loisirs. C'est-à-dire, on faisait avec les bénéfices, on organisait des excursions, par exemple au Futuroscope, au Puy du Fou, à Disneyland, et ainsi de suite. Puis. Et on arrivait à motiver quand même ces jeunes appelés, puisque c'était surtout des appelés, en disant, moi je leur disais toujours, eh bien, il y a un baby-foot, là vous l'avez cassé, mais c'est vous qui allez le payer, comment c'est nous? Ben oui, vous êtes des actionnaires du foyer. Si grâce à l'argent que vous laissez dans les activités commerciales, eh bien, qu'on arrive à vous présenter des spectacles et des choses comme ça. Parce qu'on organisait aussi beaucoup de spectacles, hein. J'ai passé par exemple un groupe qui va fêter ses adieux là prochainement, que vous connaissez, le groupe Trianne.
Oui, oui.
Je l'ai fait passer comme ça une semaine après leur passage à l'Olympia. J'ai été voir l'amiral en disant, voilà, j'avais ce que je voudrais faire. Il me dit, qu'est-ce que vous attendez de moi? Ben, j'ai dit, est-ce que vous pouvez, si je vous prépare un projet de lettre à M. Le Drian, député maire de Lorient, pour obtenir les gratuités du Palais des Congrès, est-ce que vous me soutenez? Allez-y.
Super.
Et c'est comme ça qu'ils sont passés, et avec des tarifs très préférentiels, parce que les gens ne le savent pas, mais c'est les foyers de la marine qui ont fait découvrir le groupe Les Trianes au départ, avant qu'ils soient professionnels.
Ah bon? D'accord.
Ben oui.
Super.
Ben oui. Et donc, je vous dis, je me suis, je pense, éclaté là-dedans, dans les foyers, vu les problèmes que j'ai pu avoir, perdu 3 frères, on était 4,
ouais,
4
ouais,
garçons.
Ouais. Oui, et ça a dû vous... De toute façon, je vais vous dire, je suis, André, je suis intimement persuadé, mais vraiment intimement persuadé, je le ressens instinctivement, que la santé vraiment dépend énormément de... Et la jeunesse même, hein, voyez, le côté, on reste jeune dans sa tête, en fait, lorsqu'on est large d'esprit, lorsqu'on est apaisé, lorsqu'on est épanoui dans son travail, lorsqu'on a choisi, lorsqu'on s'est écouté et qu'on a, on a choisi le chemin qui nous appelait, en fait.
Tout à fait.
Et c'est très important d'être en accord avec ces...
Alors, vous faites penser à une chose, j'ai été... affecté également, j'ai une affectation comme directeur du foyer du centre d'instruction navale à Brest.
Oui.
Le centre d'instruction navale regroupe le lycée naval, l'école de Metz-France, l'école des Mousses. J'y ai fait 3 ans. Je peux vous dire que là, c'est pareil, c'était basé sur l'animation, la participation, et tous les fins de cours, on montait des spectacles avec les élèves. Et je me souviens d'avoir un jour le préfet maritime adjoint qui était venu assister à un spectacle. À un moment donné, sur la scène, il y a un jeune mestrancier qui a subtilisé la casquette de l'amiral dans les vestiaires. Et il s'amuse à casser des œufs dans la casquette de l'amiral. L'amiral, il me fugit du regard. Et voilà qu'il sort des madeleines de la casquette.
Oh là là.
Et à l'issue, il me dit, hey, « Hé, directeur, vous n'allez pas me faire croire que ce sont les élèves du lycée naval de Metz-France qui ont produit ce spectacle. » Ben, j'ai dit, si, hein, qui faisait le fakir, il y avait orchestre, et ainsi de suite, venez voir dans les vestiaires et tout, vous verrez. Oh, il en revenait pas. Mais en fait, c'était une façon aussi de les motiver, ces jeunes qui rentraient dans la marine, et il y avait, vous avez les jeunes du lycée naval, les jeunes de l'école des Mousses, 15 ans, les jeunes de l'école de Metz-France qui étaient bacheliers. Avec tout ce monde-là, on arrivait à former quelque chose.
Mmh.
Et justement, à l'issue de ces trois années, j'ai écrit une lettre après ces 3 années, avant de quitter le centre d'instruction navale. Et j'ai terminé ma lettre, et je pourrais vous citer simplement, en conclusion, je ferai mien les propos qu'un romancier contemporain fait tenir à l'un de ses personnages. J'aime les jeunes parce qu'ils aiment la vérité. Dès que la jeunesse s'éloigne, la vérité recule. On entre dans la société. Un homme qui est du côté de la vérité est toujours du côté des jeunes. Ce n'est pas une question d'âge, mais de caractère. D'ailleurs, quand on aime la vérité, on reste jeune.
Super. Bravo, André. On marque une petite pause sur ces belles lettres et on se retrouve tout de suite. Hein. Vous restez avec moi. À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
23h46, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes avec André qui nous évoque sa vie. Une vie où il y a eu des drames, André, mais où il y a tout de même une ligne de vie et une luminosité qui émane de vous, je trouve, et de vos de votre énergie là dans cette voix, parce qu'on sent que vous avez toujours aimé cette vie et toujours aimé ce métier, ce contact, cet échange, et c'est formidable, formidable. Je repensais à ce que vous avez lu il y a quelques instants, c'est exactement ça, proche de la vérité, proche des jeunes.
Voilà. Et justement, après mon affectation à Brest, j'étais désigné à Lorient, directeur du foyer du Marin, qui est un hôtel-restaurant, hein, où on accueille les permissionnaires de tous les arrondissements et même d'ailleurs, où j'ai été en même temps directeur du club nautique des équipages de la marine à Lorient. J'étais deux fois directeur de club nautique à Brest et à Lorient. Et ensuite, comme le directeur régional des foyers est parti précipitamment en Tahiti, remplacer quelqu'un qui était malade, Paris me téléphone, il me dit écoutez, on n'a pas tellement d'autres solutions. Nous sommes au mois de juin, jusqu'au mois de septembre, vous allez cumuler les fonctions actuellement, directeur du hôtel-restaurant et du club nautique, et puis vous serez à la fois directeur régional des foyers, et puis surtout une autre fonction, officier conseil régional, donc jusqu'en septembre. Donc en septembre, j'ai pris toute la mesure de mon poste. J'ai laissé mon poste de directeur du hôtel-restaurant mon successeur. Et j'ai pris, où j'étais directeur régional des foyers. J'avais quand même une dizaine de foyers sous ma coupe. Et en même temps, officier conseil régional. Et un jour, en allant à Hourtin, je vois les jeunes, vous savez, qui font leur classe à Hourtin. Et le commandant me dit, mais vous savez, les jeunes qui sont incorporés là, il y a en gros, ils vont tous à l'école jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire, mais il y a en gros 15 à 20% des jeunes appelés qui sont présents actuellement sous les drapeaux, qui possèdent aucun diplôme scolaire. Et ils vivent plus ou moins bien, naturellement, cette situation d'échec. Alors ça me trotte dans la tête, et je découvre qu'il existe un premier diplôme de l'éducation nationale, qui s'appelle le certificat de formation générale. Je demande un entretien à mon amiral et je lui dis, j'ai un projet, je voudrais mettre en place des cours pour que les appelés qui n'ont aucun diplôme passent cet examen certificat de formation générale. L'intérêt, c'est que c'est le premier diplôme d'éducation nationale, mais c'est surtout le minimum exigé pour toute titularisation dans la fonction publique. Et en plus, il permet d'obtenir un CAP par des unités capitalisables.
Oui.
Donc, j'ai rencontré l'inspecteur d'académie du Morbihan. Il me dit, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Il me voit un jeune officier qui n'est pas enseignant et qui veut, avec des appelés qui ont certains bachelier ou bac plus 4 ou plus 5, mais qui ne sont pas enseignants eux-mêmes, qui vont faire l'école à d'autres appelés. Il était très dubitatif. Je dis, moi j'attends à ce que vous détachiez quelqu'un pendant une demi-journée, un gars qui a cette expérience, qui nous briefe un peu sur le programme. Et il a donné gain de cause parce que ma visite était précédée par une lettre officielle de l'amiral, donc il ne pouvait pas faire marche arrière. Il me détache quelqu'un et puis on a réussi à mobiliser tous les différentes bases, on a à Val de l'Ambiouet, tous les commandants. Et les jeunes appelés qu'on appelait des assistants de promotion sociale ont comme ça donné des cours. Et en l'espace de 5 ans, près de 500 jeunes appelés qui n'avaient aucun diplôme ont passé leur diplôme des certificats de formation générale et avec 92% de réussite. Vous vous rendez compte ?
Non, c'est génial, génial.
Et fort de cette expérience, c'est remonté, vous savez, dans les armées, tout remonte, hein, c'est remonté à Paris. Et à l'époque, je crois que c'était Léotard qui était ministre de la Défense,
oui.
Des armées. Et vu l'expérience que j'avais tentée à Lorient, hein, c'était des appelés qui donnaient des cours à d'autres appelés. Et il n'y avait pas la barrière, ils avaient les mêmes tenues, ils cassaient la croûte au même endroit, les logements étaient les mêmes. C'est pour ça que le courant passait, ils étaient fâchés avec l'école, mais c'est qu'ils avaient réconcilié. Et donc c'était des jeunes, d'autres appelés, qui étaient qu'on appelle assistants de promotion sociale. Et donc fort de ça, donc Lyotard a mis en place un système où on prévoyait la possibilité pour ces appelés qui venaient d'obtenir le certificat de formation générale de contracter un volontariat service long. Alors certains volontariat service long spécialistes, ils pouvaient prolonger leur service militaire pour obtenir une formation interne de marin-pompier, de fusiliers marins avec les chiens, ainsi de suite. Donc ça les préparait à devenir des gardiens, ainsi de suite, de sécurité, compagnie, vous voyez. Mmh. Et il y avait une autre spécialité qu'on appelait VSL préqualification. Les jeunes finissaient le service militaire, mais pouvaient aller faire une formation à la FPA, au Greta, ainsi de suite, dans des écoles de Lorient. Et le soir, ils continuaient à être hébergés dans leur unité de la marine.
Formidable.
Et donc, ils repartaient. Bah, on leur avait mis le pied à l'étrier avec le certificat de formation générale. Et puis, ils sont repartis avec une qualification. Le gars qui avait passé ses permis poids lourds, il pourrait retourner dans le civil.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça allait lancer. En tout cas, c'était une impulsion. Dans leur vie.
C'est donc, comme je vous dis, c'est une expérience originale qui a été tentée sur Lorient et qui n'existait pas ailleurs. Et puis, comme j'avais dit à l'amiral, le certificat de formation générale, c'est bien, mais amiral, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il me dit, qu'est-ce que vous racontez par là? Eh bien, vous avez la possibilité, amiral, de donner des jours de permission supplémentaires à ceux qui réussissent. Et à tous ceux qui avaient réussi, il y a 2 jours de permission en plus, y compris pour leurs enseignants, qui étaient appelés comme eux.
C'est super. Je crois, André, que parce qu'on n'a plus que 5 minutes ensemble, je crois que vous voulez...
Ah, je voulais quand même parler s'il y a 5 minutes.
Oui.
Donc ensuite, quand j'ai quitté la marine en 2000, je me suis investi comme président de l'association des donneurs de sang. J'avais 25 communes au départ et 8 antennes. Et en 2004... Et en 2005, mon épouse a eu un premier cancer du sein.
Oui.
J'ai donc réuni mes responsables d'antenne et j'ai dit, voilà, je vais sans doute être obligé de démissionner. Qu'est-ce qui veut prendre ma place? Tout le monde a baissé la tête. Personne. Ben, j'ai dit, dans ces cas-là, j'ai pas de solution, ou du moins, j'ai une proposition à vous faire. Je vous demande de transformer toutes vos antennes en associations autonomes. J'ai mis 10 ans pour le faire. On a créé 8 nouvelles associations de donneurs de sang sur Lorient. Parce qu'il fallait que j'ai un peu plus de temps pour m'occuper de mon épouse. Elle a eu un premier cancer du sein en 2005. Mmh. Alors, chimio, rayon, ainsi de suite. 5 ans après, deuxième cancer sur l'autre sein. Ensuite, en 2014, elle a eu l'ablation d'un sein. Ensuite, ça a été des crises d'épilepsie. Peu de temps après, la maladie d'Alzheimer s'est déclarée. Alors là, c'était vraiment la totale. Et j'ai été la voir cet après-midi. Elle est en fin de vie. Hein, mais elle est pratiquement dans le coma. Elle est sous morphine, sous Valium, et ainsi de suite. Et vous savez, la maladie d'Alzheimer, c'est une épreuve pour la personne, mais c'est une épreuve aussi pour les proches. Parce que c'est pas facile de vivre à côté d'un être qui ressemble plus du tout à celle qu'on a rencontré.
Bien évidemment. Hein,
c'est ce que j'appelle, moi, ça, c'est rentrer dans le deuil blanc.
Oui.
C'est-à-dire, c'est comprendre, accepter et s'adapter à cette nouvelle relation. Hein.
Oui,
parce qu'après un décès, le deuil se situe dans le temps d'une absence définitive. Mais là, chez l'aidant d'un Alzheimer, L'aidant, il va devoir faire face à plusieurs renoncements au fil de l'apparition des nouveaux symptômes et de l'évolution de la maladie. Hein, c'est tout à fait un réaménagement psychique difficile, quoi, parce que ça demande beaucoup d'énergie. À savoir que moi, ben, je devais tout faire à la maison. Hein. Je faisais la cuisine. J'adore faire la cuisine. Oui, encore heureux. Oui. La cuisine, le ménage, les courses, ainsi de suite. C'était plus que l'ombre d'elle-même. J'ai eu recours naturellement à une infirmière qui venait, ainsi de suite. Mais bon, je faisais, le reste, je faisais tout. Puis l'infirmière, elle passe le matin, elle passe le soir. Et puis, vous êtes livré à vous-même.
Hein. Ouais, ouais. C'est terrible, cette maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose de très mystérieux. Et,
on ne peut pas lutter contre la maladie d'Alzheimer. Il est possible d'apaiser, d'accompagner, d'aménager la vie du malade, mais c'est tout.
Elle vous reconnaît quand même, votre épouse
sa santé s'est terriblement dégradée depuis 15 jours. Là, cet après-midi, je suis passé la voir. Je suis resté tout l'après-midi. Et elle est pratiquement dans un semi-coma, quoi. Elle est très encombrée. Enfin, j'ai prévenu ma fille. On a une fille, une fille unique qui a deux charmants garçons.
Oui, je crois que vous allez bientôt être
enceinte. Elle est enceinte du troisième de 6 mois.
Magnifique. Magnifique.
Donc j'ai dû la prévenir avec l'aménagement en disant que malheureusement, maman, je ne sais pas si elle passera le week-end prochain. Mmh. Mais bon, je ne désespère pas. Il faut toujours rester optimiste dans la vie. Et je suis tellement satisfait du personnel qui est dans cette EHPAD. Hein. Je peux le citer, c'est l'EHPAD Anne de Bretagne à Codan. C'est super. Hein. Ah oui. Les gens, je suis en admiration. Et d'ailleurs, le directeur m'a demandé de faire partie du conseil de la vie sociale, que j'ai accepté volontiers. Ça rentre tout à fait dans la ligne droite de ce que je faisais également dans la marine. Hein.
Mmh. Et puis avec l'énergie que vous
tout
avez.
Tout à fait.
Ouais.
Et vous savez, ils travaillent un peu comme nous, on faisait dans l'animation participation. Mmh. Par exemple, avant l'année dernière, ils ont organisé une marche solidaire avec les gens s'inscrivaient en faisant un cochon grillé. Ils ont fait un vide-grenier. Avec l'argent qu'ils ont récolté, figurez-vous qu'ils ont envoyé une semaine en vacances sur la presqu'île de Crozon, 15 résidents avec l'infirmier, la psychologue, les aides-soignants, et sans rien débourser. Autofinancement. Ouais.
C'est magnifique ça, André.
Et je pense qu'au départ de mon épouse, je vais me porter volontaire pour faire des animations dans cette EHPAD.
Mais écoutez,
j'ai de l'admiration pour ce personnel.
Mais écoutez, moi j'ai de l'admiration pour vous et je vous remercie vraiment grandement pour votre témoignage ce soir sur notre antenne, mon cher André.
Non mais c'était un grand plaisir. Hein.
Eh bien écoutez, pour moi, il est partagé. Portez-vous bien, et puis embrassez les petits-enfants, et puis votre fille avec le petit.
Bah oui, elle va être maman d'un troisième bébé, elle ne veut pas me dire le sexe.
Mais
elle a dévoilé le sexe uniquement à sa maman.
Laissez la surprise. Bon, je vous embrasse.
La maman le sait, mais comme elle ne parle plus.
Bon, ben, je vous embrasse, mon cher André. Passez une bonne soirée.
Et bonsoir, et merci beaucoup.
Bonsoir, je vous en prie, au revoir.
Bonsoir.